Bienvenue dans le podcast L'âme heureuse. Ici, c'est Stéphanie Solina, ta coach de vie et thérapeute. Ensemble, nous explorons la psychologie et le développement personnel. Prête à ce que demain soit meilleur ? Alors, je te souhaite une bonne écoute. Je suis ravie de vous retrouver dans un tout nouvel épisode de podcast pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. J'ai nommé l'hypersensibilité. Alors, je pouvais pas honnêtement faire une chaîne de podcast qui parle de la psychologie et du développement personnel sans aborder ce sujet. C'est un peu un incontournable. Mais je sais, j'ai quand même conscience que généralement, quand on parle de ce sujet-là, il y a deux teams. Il y a probablement la team qui en peut plus, vraiment, puisque c'est vrai qu'on est un peu inondé d'informations sur ce sujet-là depuis, pas mal d'années quand même. Mais il y a aussi la deuxième team, c'est « Ah, moi j'adore, je regarde toutes les conférences sur ce sujet-là, je lis tous les livres, tous les podcasts. » Donc, je ne sais pas de quelle team vous êtes. Pour ma part, je suis un peu entre deux, mais c'est quand même un sujet qui me passionne et avec lequel je me suis beaucoup renseignée. Sauf que le truc, c'est que je me suis souvent sentie frustrée puisque j'ai eu cette sensation de ne pas nécessairement avoir des réponses qui soient totalement complètes par rapport aux questions que je pouvais me poser. Du coup, j'ai donc décidé d'investiguer un peu plus en détail avec vous. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est pas seulement une sensibilité qui va être émotionnelle intense, c'est plutôt une façon de spéciale hein, de ressentir le monde, de percevoir la beauté dans les détails et de créer des liens qui sont profonds avec les autres. Alors justement, peut-être qu'en ce moment, tu te demandes si t'es peut-être hypersensible. Bon. Je te rassure, c'est quand même une question que beaucoup de personnes se posent, puisque crois-moi, l'hypersensibilité, c'est beaucoup plus répandu que ce qu'on ne le pense, étant donné que ça concerne entre 15 à 20% de la population mondiale. Du coup, cet épisode de podcast, il va vraiment te permettre d'éclairer les questions que tu peux te poser, et vraiment, on va venir plonger dans l'origine de l'hypersensibilité, comprendre concrètement comment ça fonctionne, et à ce moment-là, tu pourras peut-être découvrir comment tu peux utiliser justement cette hypersensibilité et la percevoir comme une force, plutôt que parfois comme une source de souffrance. Pour aborder ce sujet-là, je pense que c'est quand même important de bien venir définir c'est quoi en fait finalement l'hypersensibilité, comment est-ce qu'on la définit. Bon, lui le dictionnaire il nous dit que finalement l'hypersensibilité c'est comme une sensibilité exagérée ou extrême. En vrai, il est pas cool, ok ? Puisque généralement dans la vie de tous les jours, le mot exagéré a plutôt une connotation assez inconfortable. Bon, vous me connaissez, je me suis pas arrêtée là, j'ai quand même investigué un peu plus, hein. Et j'ai donc trouvé finalement qu'il y avait une psychologue américaine qui était un peu une pionnière dans la recherche et surtout qui s'était un peu spécialisée dans l'hypersensibilité. Donc elle est vraiment connue comme une pionnière de la recherche en hypersensibilité et elle finalement, elle définit l'hypersensibilité comme un trait de caractère. Pas une pathologie, mais vraiment un trait de caractère qui reflète une sensibilité qui est plus forte que la moyenne. Pourquoi je dis que c'est une caractéristique et pas une pathologie ? Parce qu'en fait, c'est vraiment important de bien distinguer l'hypersensibilité de certaines pathologies. En effet, on peut retrouver une sensibilité qui va être importante chez des personnes qui sont atteintes, par exemple, de troubles de l'humeur, d'autisme, de troubles anxieux. Et on peut aussi la retrouver chez des personnes qui ont un symptôme, par exemple, de stress post-traumatique. Donc, avant de conclure à une hypersensibilité, ces pathologies, en fait, elles doivent être dans un premier temps écartées. Ça, c'est important. Maintenant, tu te poses peut-être des questions si on retrouve des caractéristiques bien particulières chez l'hypersensible. Alors oui, je pense que surtout la principale caractéristique, c'est la façon de percevoir les choses, la façon de percevoir le monde qui les entoure, en fait, vraiment de manière totalement différente. Et surtout à travers quatre points. Le premier point, ça va être un traitement de la formation qui va être beaucoup plus long, beaucoup plus intense avant de passer à l'action. La deuxième chose, ça va être la surstimulation, c'est-à-dire que l'hypersensible a tendance à avoir un sens plus développé et plus intense par rapport à ce qui se passe autour de lui. Il va vraiment ressentir les choses de manière plus intense. La troisième chose, c'est une réactivité émotionnelle assez importante avec quand même une grande présence d'empathie. Donc ça inclut non seulement la difficulté à gérer des émotions qui vont souvent les submerger, leur faire vivre de manière un peu tout plus intense, à une certaine forme de sensibilité aussi accrue au regard des autres, mais également être très sensible à l'autre. Et c'est là où c'est la nuance et je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, ce docteur, il a mis en évidence que le fait que les personnes hypersensibles ils auraient un nombre de neurones miroirs plus important, ce qui entraîne un vécu plus intense des émotions de l'autre. C'est-à-dire qu'ils vont vraiment ressentir les émotions de l'autre de manière plus intense. Et du coup, pour l'hypersensible, pour lui, c'est parfois difficile de venir faire la part des choses entre ses propres ressentis et le ressenti des autres. La quatrième caractéristique, c'est une sensibilité vraiment au subtil, on va dire. C'est-à-dire que ça va passer par nos sens. Elle explique en fait, la chercheuse, qu'il n'y a pas une particularité spécifique au niveau des organes sensoriels chez les personnes hypersensibles. En revanche, ça va être vraiment grâce au traitement approfondi et répété finalement de la formation sensorielle que la personne hautement sensible, donc hypersensible, elle va surtout arriver à développer cette caractéristique. Ce qui est aussi intéressant finalement, c'est qu'on retrouve un petit peu une stratégie hein, qui fait un peu partie de la survie pour une personne hautement sensible. C'est-à-dire qu'elle va avoir vraiment cette capacité à détecter le danger, s'apercevoir du danger, saisir les bonnes occasions, parce qu'elle va vraiment sentir qu'il y a une certaine forme de choses à saisir. C'est un peu comme si son cerveau, il allait calculer plein de trucs et ça allait lui apporter la réponse à l'équation sans avoir l'équation. C'est aussi pour ça que souvent, les hypersensibles ont une intuition assez développée, puisque tout se passe de manière un peu inconsciente. Et finalement, ces quatre caractéristiques assez importantes vont se retrouver dans différentes sphères de leur vie. Et du coup, ça va aussi impacter finalement différentes sphères comme la manifestation émotionnelle, comme des manifestations qui vont être comportementales et physiques, des manifestations intrapersonnelles, des signes cognitifs. Donc je vais détailler un petit peu tout ça pour vous donner plus de détails. Finalement, chez la personne hypersensible, sa façon de gérer les émotions va être bien particulière. C'est-à-dire qu'il va avoir surtout une hyper-réactivité à un stimulus qui ne vont pas nécessairement faire réagir la plupart des personnes. C'est-à-dire que il va vraiment réagir à des choses que d'autres, ça pourrait passer au-dessus. C'est aussi finalement de se sentir assez débordé émotionnellement face à des situations qui génèrent des émotions, et y compris des émotions qui peuvent être agréables. Donc ça peut être par exemple le fait de venir pleurer devant un magnifique paysage à un coucher de soleil par exemple, éventuellement. Vous voyez, c'est vraiment, ça va être aussi intense quand c'est positif que quand c'est inconfortable. Il y a aussi une chose assez particulière qu'on va retrouver chez l'hypersensible, c'est que l'émotion que la personne va ressentir est souvent très forte, peut durer très longtemps, et parfois elle va pas toujours être adaptée à la situation. La personne hypersensible aussi, elle a tendance à amplifier ses ressentis. Une autre chose aussi bien particulière qu'on peut retrouver chez l'hypersensible, c'est ce qu'on appelle une versatilité de l'humeur, c'est-à-dire que elle peut changer plusieurs fois d'humeur dans la journée. Donc évidemment sans être bipolaire, mais c'est un peu ce qu'on peut retrouver, passer de l'agréable au désagréable, puisque ça fait vraiment souvent les montagnes russes en termes de ressenti. Une autre chose sur laquelle on va trouver des caractéristiques chez l'hypersensible, c'est qu'il va avoir une faculté à mémoriser avec beaucoup d'acuité son propre vécu. C'est-à-dire qu'en fait, quand il va raconter un truc, il va te dire ben voilà, j'ai fait ça. Ça va pas être dans une monotonie, ça va être oh, j'ai fait ça, puis c'était incroyable, après j'ai fait ça, et c'était vraiment quelque chose d'étrange, mais en même temps génial. Vous voyez, en fait, il va vraiment décrire comme ça les choses, et justement, il va avoir tendance à vraiment détailler ses propres expériences. C'est-à-dire qu'il va, admettons, il va pas vous dire oh, j'ai vu telle personne. Il va vous dire, j'ai vu telle personne, elle était trop bien habillée, vraiment elle avait mis un rouge à lèvres de telle couleur, c'était incroyable, ça lui allait très bien. Et puis c'est vrai que j'ai vraiment fait attention à ça, c'est vrai qu'elle avait une tête quand elle a dit cette phrase-là, je me suis posé des questions. Vous voyez, l'hypersensible va vraiment détailler des choses très particulières. Une chose qu'on va retrouver aussi, c'est la difficulté de mentalisation, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une certaine forme de problème pour donner une lecture, ce qu'on va appeler structurée, de ses processus psychiques. C'est-à-dire qu'en fait, pour lui, ça va être compliqué vraiment de structurer. Donc, il ressent l'émotion, mais ensuite, ok, je ressens l'émotion, ça peut être lié à ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux à l'instant T? Qu'est-ce qui est le plus raisonné, avec une certaine forme de maturité? En fait, lui, pour lui, c'est hyper difficile de faire ça à l'instant T. Genre, il est juste dans son émotion, par exemple. Par contre, l'hypersensible, il a tendance à introspecter. C'est-à-dire que c'est facile pour lui dans une forme d'introspection. Il va avoir aussi tendance à ruminer. Ça, c'est un truc très très souvent présent. Une autre chose qu'on peut retrouver un peu particulière, c'est qu'en fait l'hypersensible, il se connaît dans un sens, c'est-à-dire qu'il sait que certaines choses vont être génératrices d'émotions et il peut généralement les fuir. Et donc ça peut l'amener à être dans une forme de procrastination avant d'accomplir des tâches. L'autre chose qu'on va retrouver dans plus là le côté comportemental et aussi physique par rapport à l'hypersensible, c'est que il a tendance à être dans une hypervigilance. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est l'hypervigilance. Par exemple, vous êtes dans un cours de sport, vous êtes en train de faire votre cours de sport, voilà un truc de cross-training qui bouge assez, mais vous avez cette capacité quand même d'être aux aguets avec qui est-ce qui sort et rentre dans la salle de sport, quelle personne est au bar et qu'est-ce qu'elle est en train de prendre, peut-être qu'elle est en train de prendre une boisson pour se rafraîchir ou un café, éventuellement l'autre personne vous allez remarquer qu'elle a changé de chaussure entre son entraînement hier, en fait vraiment il y a vraiment la détection, un espèce de danger latent, mais c'est vraiment l'hypervigilance constant et ça c'est épuisant à terme. Une autre caractéristique aussi, c'est que l'hypersensible, bah, il supporte pas l'ennui, il aime pas être dans l'inactivité, dans la passivité. Puis en fait, son monde, il est rempli de couleurs, enfin, il est rempli vraiment d'émotions, avec une espèce de palette de couleurs, avec plein de nuances. Donc pour lui, être rien faire, c'est pas ressentir la vie, quoi, par exemple. Une autre chose aussi, c'est qu'il peut être tendance à être très très fatigué, il va avoir tendance à être très fatigué, de par bah, l'espèce de forme de stimulation, de ressentir les choses intenses, de traiter l'information de manière plus profonde. Il peut être aussi sensible à l'insomnie, il peut aussi avoir une conscience un petit peu du temps qui passe, des choses qu'il n'a pas faites, des pertes par exemple, et il est aussi sensible au changement. C'est-à-dire que par exemple, pour parfois certaines personnes, changer de voiture, c'est pas anodin. C'est pas anodin, bah non, c'est pas anodin, parce que ça me rappelle si, en même temps, en fait, il lit plein de choses, en fait, c'est ça qui peut être complexe aussi chez les hypersensibles. Dans finalement son rapport un petit peu... à lui-même, dans un sens aussi l'hypersensible, donc dans la manifestation interpersonnelle, ou avec les autres, hein, ça va être difficile un peu de venir s'opposer à l'autre, de venir affirmer ce qu'il pense vraiment, de venir défendre ses convictions, c'est quelque chose qui est honnêtement assez difficile, il a plutôt peur du conflit en fait. Donc il va plutôt être tendance à être intimidé devant une attitude qui est un peu menaçante. Par contre aussi, il va être fidèle en amitié, très très fidèle. Et il a aussi une grande empathie, donc il a tendance plus facilement aussi un peu à se mettre de côté au profit de l'autre. Il peut être aussi, il peut souvent rentrer dans la dépendance affective, ça c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Il a une sensibilité qui est quand même accrue au regard de la personne avec qui il vit, donc de son conjoint ou sa conjointe. Et l'hypersensible, il est aussi sensible aux reproches et aux critiques. Alors là, attention, c'est quelque chose qui est aussi souvent présent. Quelque chose qui met mal aussi l'hypersensible, c'est de ressentir une certaine forme d'hostilité face à une personne qui est en face de lui, en fait, finalement. Puisqu'en fait, des fois, ça va arriver qu'il va être dérouté par rapport à l'imprévisibilité de l'émotion de l'autre. C'est-à-dire que souvent, l'hypersensible, comme il ressent les émotions de l'autre, il analyse les potentielles choses qui peuvent se passer, ce qu'il peut potentiellement ressentir. Mais comme parfois, c'est pas nécessairement toujours ce qu'il prévoit, là, pour lui, c'est méga déroutant. Et l'une des dernières sphères sur lesquelles ça peut impacter, c'est une certaine forme de hypersensibilité aux stimulus spécifiques, c'est-à-dire vraiment aux odeurs, aux sons, à la lumière et aussi aux ondes. Hein. On n'en parle pas souvent, mais il y a aussi les ondes, en fait. Et ça a été approuvé, vraiment. Voilà, les personnes qui sont sensibles aux odeurs, à la lumière, par exemple, ça va demander d'aménager l'espace dans lequel on travaille de manière un peu particulière, si c'est possible. Par exemple, si les personnes travaillent en bureau, il y a toute une certaine forme d'aménagement quand on a cette forme d'hypersensibilité. Bon, quand même, c'est important de préciser que avant de se dire « ok, c'est une hypersensibilité c'est vraiment lié à ça au niveau des stimulus, c'est-à-dire des sons, des odeurs ou autres », c'est quand même important d'écarter que c'est pas peut-être une origine physique en fait. Donc c'est quand même aussi important qu'un médecin, un psychiatre vienne intervenir. Donc voilà un peu pour globalement hein, vraiment toutes les caractéristiques qu'on peut retrouver chez l'hypersensible. Moi ce qui m'a longtemps aussi intéressée, c'est ok, mais en fait au niveau du cerveau, what's happening quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le cerveau d'un hypersensible, il est différent? En fait, finalement, cette sensibilité qui est exacerbée, ça viendrait pas nécessairement d'un sens plus développé. Il y a pas quelque chose de nécessairement différent à ce niveau-là. Mais c'est plutôt, comme je disais auparavant, une manière de traiter l'information reçue qui est, on va dire, un peu plus méticuleuse, si je peux dire ça comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, une personne hypersensible aura tendance à avoir plus de réflexion que la moyenne par rapport à ce qui constitue un petit peu son environnement. Et du coup, de ce fait, de capter des détails à ce niveau-là. Et d'ailleurs, justement, il y a des études hein, qui ont démontré que certaines zones du cerveau de l'hypersensible seraient un quand même fortement plus activé que chez d'autres personnes. C'est-à-dire que, bon, je vous les cite si jamais ça vous intéresse, mais c'est-à-dire qu'il va y avoir l'aire tégumentale ventrale, c'est-à-dire, et ça c'est vraiment responsable du plaisir et de la motivation. On va avoir l'insula antérieure qui est impliquée plutôt dans les ressentis affectifs. On va avoir l'amygdale, souvent le site, qui va gérer les émotions, et le cortex préfrontal qui lui va être un élément assez central pour finalement la planification un petit peu. Donc vous voyez que finalement chez l'hypersensible, il y a quand même des zones du cerveau qui sont un peu plus sollicités, on va dire. Mais du coup, moi, ce que je me suis aussi un peu posé comme question, vraiment, ça m'a trotté longtemps dans la tête, c'est est-ce qu'en fait, l'hypersensibilité, c'est quelque chose d'inné, ou est-ce que c'est quelque chose qui se construit finalement? Est-ce que c'est un peu l'histoire de, ok, c'était quoi le premier, la poule ou l'œuf, par exemple? Bon, bah, j'ai investigué et j'ai quand même des réponses à vous apporter par rapport à ça. Donc, selon quand même des études qui ont été faites, on peut quand même distinguer deux types de sensibilité. La sensibilité qui est dite traumatique, c'est-à-dire que elle, ça va être plus lié à un accident, à un traumatisme qu'on a pu avoir au cours de la vie, qui va fragiliser un petit peu les personnes et qui va justement, pouf, déclencher une certaine forme d'hyper-émotivité. Donc, cette sensibilité peut quand même être soignée par différentes thérapies qui va pouvoir apaiser la personne. On a aussi une deuxième sensibilité qui, elle, va être génétique, c'est-à-dire qu'en fait, elle est innée et elle serait quelque part en lien avec un patrimoine génétique des parents ou des générations précédentes. C'est pour ça que c'est pas rare de trouver des parents qui sont hypersensibles et qui ont à leur tour également un enfant hypersensible. Parfois, ça arrive souvent que des parents viennent pour leur enfant en disant « Oui, voilà, mon enfant, je commence à remarquer qu'il y a ça, il y a ci, il y a ça. » Et finalement, en investiguant et en trouvant une certaine forme d'hypersensibilité chez son enfant, le parent, bah, des fois, venir investiguer sur lui, se rendre compte que « Ah, ok, en fait, je me rends compte que aussi j'avais ça chez moi, par exemple. » Et d'ailleurs, par rapport à la sensibilité génétique, il y a des études hein, quand même qui ont été faites et qui ont surtout mis en évidence qu'il y avait une variation de 7 gènes chez les personnes hypersensibles. Donc quand même, ce qui va justement influencer sur les hormones dites du bonheur. Et en fait, justement, les personnes hypersensibles auraient tendance à être un peu plus sensibles aux détails de l'environnement et aussi aux attitudes des autres. Et ils tenteraient, entre guillemets, de venir s'adapter. Sauf que le problème d'adaptation, c'est que ça cause quand même une certaine forme de source de stress chez l'hypersensible, puisque c'est lié justement au changement. Et vous vous souvenez que l'hypersensible est sensible, du coup, au changement. Donc c'est quand même important de bien faire la distinction entre ces deux types de sensibilité, puisque c'est important de distinguer si c'est une hypersensibilité qui est innée de celle qui est éventuellement une hypersensibilité traumatique. Et parfois, faire la distinction entre les deux, c'est pas toujours quelque chose de facile, mais c'est pas incompatible. On peut par exemple avoir une hypersensibilité innée, enfin génétique, et liée, couplée à une sensibilité traumatique par exemple. L'un n'empêche pas l'autre. C'est des choses qu'on peut retrouver, mais on peut avoir une sensibilité qui est traumatique liée à un événement de vie sans avoir d'hypersensibilité génétique. Ça, c'est totalement possible aussi. Voilà un peu pour les grands points finalement qui définissent l'hypersensibilité. Maintenant, j'aimerais quand même aborder les difficultés que les hypersensibles y rencontrent, puisqu'elles ne sont pas moindres. Et j'aimerais vraiment clarifier certains sujets qui sont quand même assez importants, justement pour vous aider, si vous êtes hypersensible, à comprendre ce qui se passe concrètement et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous sentir mieux si vous sentez que c'est une souffrance. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, l'hypersensible, il va avoir accès à un nombre de stimulus plus que la moyenne. Sauf que le problème, c'est que beaucoup d'hypersensibles ne parviennent pas à gérer en fait correctement cette espèce de flux d'informations. Du coup, ils vont se retrouver ce qu'on appelle noyés sous ce flux-là et ils ne vont pas parvenir à donner du sens et surtout à les hiérarchiser. C'est-à-dire que c'est pas en fait finalement le grand nombre de stimulus un petit peu qui va leur poser problème, c'est finalement l'incapacité à les gérer et en faire quelque chose. C'est-à-dire que du coup, de ce fait, en fait, finalement, la réelle difficulté pour un hypersensible à des moments donnés, ça peut être finalement d'organiser ce qu'on appelle ces processus mentaux générés justement par un stimulus qui vient de son environnement. Pour lui, ça va être difficile de venir les interpréter, les hiérarchiser, et du coup, l'hypersensible, il n'a pas de repère, en fait. Lui, il est juste, comme je disais, dans son émotion. Mais se dire, ok, donc, à l'instant T, je calme mon émotion, je perçois, j'analyse ça, je mets ça en place de manière très pratico-pratique, très factuelle, là, c'est compliqué pour un hypersensible. En fait, il va vraiment abandonner cette espèce d'analyse rationnelle de la situation et va plutôt se laisser guider par ses émotions. Du coup, c'est là où ça peut s'avérer être un problème, puisque finalement, l'hypersensible va être plus guidé par ses émotions plutôt que par sa raison. Et on sait que parfois, maintenant, se laisser guider par ses émotions, c'est pas toujours le ticket gagnant du loto, quoi. En gros, pour imaginer un peu ce que vit l'hypersensible, on peut rire un petit peu l'assimiler à Internet. C'est-à-dire qu'en fait, Internet, bah, il y a une énorme quantité d'informations, mais finalement, sans moteur de recherche, bah, on est écrasé par cette masse d'informations. En fait, on a vraiment besoin d'un bon moteur de recherche, et c'est là où Internet, bah, ça devient un outil qui est extraordinaire et qui est très puissant. Donc en fait, tant que la personne hypersensible, finalement, elle ne sait pas venir organiser ses processus mentaux, donc c'est-à-dire raisonner de manière rationnelle à des moments donnés, ben c'est là où parfois l'hypersensible, il peut se sentir en souffrance et que son hypersensibilité, c'est plutôt un désavantage pour lui. Par contre, s'il arrive à acquérir ses formes de ressources à l'intérieur de lui, à les développer et à organiser finalement ses processus mentaux, c'est là que du coup l'hypersensibilité, ça devient un atout incroyable. Et justement, si c'est le cas pour vous et que vous sentez que là vous souffrez de votre hypersensibilité, il y a quand même des choses qui peuvent vous aider, d'accord ? La première chose, c'est justement d'écarter des possibilités de troubles psychiques pour justement vraiment vous dire « Ok, c'est peut-être lié à un trouble psychique » et là, dans ces cas-là, ou écarter une pathologie, d'ouvrir une fenêtre thérapeutique pour ça. Si c'est pas le cas, dans ces cas-là, ça va être premièrement de percevoir si c'est une hypersensibilité traumatique ou génétique. Si c'est traumatique, il y a des thérapies qui vont venir vous aider finalement à essayer de désactiver un peu cette forme d'empreinte du choc émotionnel que ça a pu être, de vivre une certaine situation. Donc il y a des thérapies qui marchent assez bien comme l'ICV, le MDR qui ont été assez prouvées. Si c'est vraiment pour vous faire accompagner par rapport à une hypersensibilité qui est génétique, ça peut être aussi la chose assez importante finalement, ça va être d'apprendre à vous connaître, à savoir comment est-ce que vous fonctionnez. Ça va vous permettre véritablement d'améliorer votre façon de gérer des situations face à un problème quand vous ressentez une surcharge émotionnelle. Et ça va être surtout de vous aider à aussi traiter l'excès de processus mentaux. Ça va être vraiment de vous aider à organiser vos processus mentaux. Ça, c'est très important. Et justement, un accompagnement par rapport à votre hypersensibilité, si elle est génétique, parfois, c'est hyper important. Donc ça peut être soit par la psychothérapie ou également par le coaching. Le coaching aussi, finalement, c'est quelque chose qui va être très bien pour travailler dans votre présent. Ok, mais moi, concrètement, dans mon présent, je peux faire quoi ? Qu'est-ce que je peux développer comme ressources ? Ça, c'est très important. Et justement, le coaching, ça peut aider à ça. Voilà un petit peu par rapport à l'hypersensibilité. Maintenant, pour vous parler un petit peu de mon ressenti, puisque en début de podcast, je vous disais que c'était quand même un sujet qui me tenait particulièrement à cœur, puisqu'évidemment, je suis touchée par l'hypersensibilité. Je pense qu'en fait, petite, j'avais pas nécessairement conscience que c'était ça. Et surtout, en fait, j'avais conscience que... Enfin, j'avais l'impression que tout le monde percevait le monde de la même manière. Enfin, je veux dire, c'est pas une réflexion que vous avez enfant de dire « Je crois pas que l'autre y perçoit les choses de la même façon, quoi. » C'est pas un truc que vous vous dites. Par contre, en grandissant et en comparant, en exposant ce que j'en ressentais face à l'autre, je me suis bien rendu compte qu'on ressentait pas tous les mêmes choses et surtout de la même intensité quand même. Je percevais très souvent des détails que d'autres ne percevaient pas. Et le problème, c'est que pour moi, ça surchargeait beaucoup mon mental. Il y avait des choses qui me paraissent encore très importantes, qui ne sont pas du tout importantes pour les autres. Donc voilà, ce qui m'a amené souvent à me sentir un peu en décalage, un peu différente en fait. Et aussi par exemple d'être en décalage un peu à l'école, avec mes camarades. Enfin, vraiment en fait, j'ai un peu développé ma propre forme de logique, mais celle qu'on m'apprenait, c'était pas du tout la mienne. Enfin, je trouvais pas de sens à ça en fait finalement. Donc j'ai avancé un petit peu dans ça. J'ai aussi vite perçu que j'arrivais très très bien à décrypter les émotions des autres. En fait, ce que j'ai toujours dit, c'est moi j'ai l'impression... J'ai toujours été nulle à l'école en maths, physique, tous les trucs comme ça, vraiment horrible. Mais par contre, je savais que là où était ma force, c'est que j'arrivais vraiment à décrypter l'émotion de l'autre, à sentir les autres. C'est-à-dire que j'avais pas l'équation, mais j'avais toujours la réponse à l'équation. C'était quelque chose qui était assez limpide, c'est de lire à travers les autres, en fait, de lire les autres. Donc j'avançais un peu comme ça dans ma vie, en faisant mon propre truc, hein, essayer de trouver un petit peu des forces, des avantages, mais toujours en ayant cette sensation de sentir un décalage un peu différente. Et je me suis bien rendu compte, je pense, en introspectant encore plus, en faisant attention, en lisant beaucoup, que là où j'ai vraiment commencé à poser le mot hypersensible, c'est, je pense, il y a environ 6 ans. Ça a pris tout son sens, où justement je me suis dit, ok, là tu peux plus nier, il y a vraiment une hypersensibilité, quoi. C'est assez présent. Et là où aussi ça a été important pour moi dans mon parcours au niveau de l'hypersensibilité, c'est aussi de traiter mon hypersensibilité traumatique qui est liée à des événements de vie que j'ai pu voir. Quand j'ai suivi des accompagnements en thérapie par rapport à ça, je me suis rendu compte inconsciemment que j'arrivais un petit peu plus à organiser mes processus mentaux, c'est-à-dire que je ressentais toujours l'émotion de manière intense. Alors, je vous parle de mon ressenti, mais de manière un tout petit peu moins intense, puisque le fait d'avoir traité les sensibilités traumatiques. Donc c'est toujours intense, mais c'est un peu moindre. Et maintenant, j'arrive facilement à... je ressens l'émotion, à raisonner de manière un petit peu plus rationnelle et à organiser tout ça dans ma tête. C'est un peu plus fluide, un peu plus limpide. Petit à petit, vraiment, mon schéma de pensée, de manière très inconsciente, hein, s'est mis en place de cette manière-là. Et je me rends bien compte aujourd'hui, effectivement, que là où ça peut poser encore un petit peu problème pour moi, c'est des fois, par exemple, dans une surstimulation. C'est-à-dire vraiment, je me sens des fois saturée. Et un truc tout bête, mais utiliser mon portable dès le matin et regarder la vie des autres, ben je vois une mamie pleurer parce qu'elle retrouve son petit-fils, ça me touche. Je vois un chien qui fait un truc drôle tout mignon, je dis « Oh, c'est touchant, il y a de la pureté ». Enfin, vraiment, en fait, je me sens saturée d'informations au quotidien puisque saturée d'émotions, saturée de ressentis, saturée de détails, c'est encore ça qui est important pour moi d'apprendre à réguler finalement par rapport à ça. Et en fait, j'ai vraiment tellement de choses à dire sur l'hypersensibilité, mais trouver votre propre recette du bonheur finalement, voilà un petit peu pour le tout. Ce podcast sur l'hypersensibilité touche à sa fin. J'espère sincèrement qu'il vous aura aidé à mieux comprendre réellement comment ça fonctionne, un hypersensible. Et peut-être que si vous ne l'êtes pas, mais si vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui en souffre, je vous invite à envoyer cet épisode de podcast-là. Et pour soutenir ce podcast, n'hésitez pas à me laisser un avis sur Apple Podcasts ou sur Spotify, à me laisser une petite étoile. Vous pouvez également me faire un retour sur ce podcast, ça me ferait grandement plaisir, par message privé sur Instagram, sur mon compte Stéphanie Solina. Et puis en attendant le prochain épisode de podcast, prenez soin de vous.